scrute le zénith, convoitant les guinées que leur rapporterait le pillage du fret. Sur la mer de corail, au passage de cet appât, ces créatures n'ont dénué de raison. Ces papous attendent de dénuer la varide Vaikao.
Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement.
Bonsoir, merci de vous être connecté à Radio Libertaire pour l'émission antimilitariste L'Union Pacifiste 89.4. Et c'est le jour ou jamais, le 29 février 2024, de s'armer dans la tête, de s'armer dans le cœur pour résister au va-t-en-guerre. Rien n'est plus vulgaire, plus indécent que la guerre. Résultat collectif de conneries communes, par ignorance de notre véritable intelligence qui reste toujours en friche. Nous, les pacifistes, on est fidèles à la devise de Louis Lecoing. Louis Lecoing, il disait, et sa devise figure à la première page de notre mensuel Union Pacifiste, sa devise, elle dit: s'il m'était prouvé qu'en faisant la guerre, mon idéal avait des chances de prendre corps, je dirais quand même non à la guerre, car on n'élabore pas une société humaine sur des monceaux de cadavres. Louis Lecoing, le héros de l'objection de conscience en France, 1963, avec l'appui de Charles de Gaulle, comme beaucoup d'entre vous savent. Mais d'autres pays avaient supprimé la peine de mort déjà avant 1981, donc 20 ans à peu près plus tard que Louis Lecoing. En 1981, Robert Badinter, qui vient de nous quitter, avait réussi en France de supprimer la peine de mort dans la loi, alors que d'autres pays l'avaient supprimé depuis fort longtemps, dont tous ceux qui sont en guerre en ce moment. Ils l'ont tous suspendu. Tous suspendus, comme en France, on l'a suspendu depuis que nous avons une armée professionnelle. Suspendu ne veut pas dire supprimé. Mais avec le SNU, qui fera un gros chapitre du menu d'aujourd'hui, vous allez comprendre, si ce n'est déjà le cas, que le SNU, contradiction dans les termes service national et universel, risque très probablement de devenir une conscription archi-classique et rétrograde pour toute la jeunesse qui se laisse berner par les discours bien fallacieux, comme nous aurons à vous expliquer. Alors, ce soir, vous serez accompagné par Ariel à la technique et par Suzanne au micro. Et nous attendons, dans trois quarts d'heure à peu près, une invitée par téléphone. Et cette invitée, nous avons l'honneur d'interviewer et d'entendre Catherine Brie, qui est représentante d'une association qui est une association située dans l'Hérault pour la protection animale. Et elle est aussi représentante d'un parti politique qui candidate pour les élections européennes. Il s'agit du parti animaliste qui est aussi dans l'Hérault. Donc Catherine Brie nous parlera de la maltraitance animal. Et nous, les pacifistes, nous l'inscrivons, bien sûr, dans le cadre plus général de la violence jusqu'aux derniers étages et jusqu'aux derniers sous-sols de la nature humaine qui a plus d'un tour dans son sac pour bien cacher son jeu sauvage, souvent le cacher à ses propres yeux. Elle nous parlera des conséquences de plus en plus désastreuses et destructrices de nos activités économiques sans modération, des activités des agences industrielles, des sociétés contemporaines. Et les armées, les militaires n'y sont pas de reste pour maltraiter et violenter l'environnement, nos semblables, la nature et le climat. Les armées sont des ogres assoiffés de matières premières, d'abord pour leurs équipements, leurs bases militaires et évidemment leurs armements au sens propre, leur matériel mortuaire, mortifère, qui se nourrit du travail et des impôts de qui ? Des peuples qui méritent mieux. 413 milliards et même plus encore pour les militaires et pour l'école des fariboles et pour les retraites. Je ne sais plus quoi, quelque chose qui rime. Pour les riplettes, pour les retraites, voilà, des clopinettes. La guerre ne serait-elle pas une maltraitance ultime, le crime ultime ? Et qu'est-ce qui déclenche la guerre ? Qu'est-ce qui semble la légitimer aux yeux grands ouverts du peuple bien naïf qui se laisse, je le dis encore une fois, berné par des discours fallacieux, par des discours emberlificotés de patriotisme, de sacrifice, qui peut-être, il fut un temps, avaient leur raison d'être, parce que notre intelligence n'était pas suffisamment développée, notre capacité, nos capacités de négociation, d'affronter avec nos oreilles un autre, un opposant, un ennemi, autrement que par les armes. autrement que par la violence physique, parce qu'il y a aussi la violence verbale. Mais c'est déjà un degré d'abstraction. Et de la violence verbale au fait, au poing, au coup de poing, au coup de revolver, il y a une certaine gradation. Nous parlerons des féminicides, qui ne sont que la partie émergée des violences, parce que les hommes entre eux aussi sont violents, évidemment. Mais envers les femmes, les féminicides ne cessent d'augmenter. Donc, en gros, le menu, la violence, le SNU, et surtout, à 18h45 environ, l'appel de Madame Brie pour nous parler des devoirs que nous avons envers des animaux au lieu de les maltraiter. Je vous rappelle le numéro de studio, c'est le 01 43 71 89 40 où vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales. Et je vous rappelle un autre numéro, ce serait bien d'avoir un stylo et un papier, le numéro de téléphone de Publico, la librairie anarchiste, où se trouvent non seulement nos publications mensuelles, mais plein d'autres publications, des livres, des périodiques fort utiles pour s'armer dans la tête contre la pseudo-violence naturelle qui devrait jamais cesser. C'est une erreur. Une horreur, bien sûr, mais aussi une erreur. L'être humain a les capacités à développer pour se rendre maître de ces pulsions violentes qui nous habitent. Il faut les domestiquer, les apprivoiser. Publico, donc, cette librairie Publico se trouve au 145 rue Amelot, près de République, métro République, ou Filles du Calvaire, et ils ont aussi un numéro de téléphone, 01 48 05 34 08. Et je vous rappelle le numéro du studio où vous pouvez nous appeler pour vos réactions, vos suggestions, vos commentaires pendant les pauses musicales. 01 43 71 89 40. Voilà, on va faire une pause musicale.
Que je chantais, y a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur. J'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. On a babo cagnoso, penabi colognoso. Avec des mots, on passait sous le manteau qui brillait comme des couteaux. Ils jouaient de la dérision comme des armes de précision. Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs. Font rire les enfants, mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ça dépend de ton attitude, c'est sans prendre solitude. Il y a du sang sur mon piano, il y a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs qui font grincer les dents du grand libérateur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Je chantais une chanson qui nous ressemble.
Monticaillé, Castelli di Pensa.
C'est la voix de Mandela, le tempo d'Octofella. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur.
Merci Bernard Lavillier. En effet, les dictateurs n'aiment pas rire parce qu'ils ont peur et ils cachent bien leur sentiment d'impuissance derrière des engins de guerre monstrueux. Et plus ils se sentent impuissants et plus leurs engins mortifères sont énormes. Énormes. Mandela avait bien formulé la chose. Les seules armes authentiques et utiles de l'être humain, ce sont l'éducation et l'accès aux connaissances. L'accès aux connaissances et l'édification d'une conscience. Parce que la conscience est au-dessus de notre cerveau. Disons, c'est là le point d'orgue, c'est le sommet, la conscience. Que dois-je faire? Que dois-je omettre? Évidemment, les philosophes vont dire, mais vous faites de la morale, madame. Mais l'être humain ne peut pas se passer de morale. Il y en a dans toutes les langues et dans toutes les cultures. Pas dans la culture de la guerre, mais dans la véritable culture. La guerre fait la guerre à la culture. Or, la guerre commence dans les poches des profiteurs de guerre. Et elle s'enracine dans l'inertie de nos neurones, dont cette inertie a été préparée, pour ainsi dire, par un système qui nous enjoint à obéir à l'armée, évidemment. L'obéissance, c'est le premier devoir du soldat. Mais même le citoyen doit se tenir tranquille, se tenir sage. Vous vous souvenez ? Doit se tenir sage, même les sages doivent se tenir sages face au système capitaliste actuel qui nous habite, hélas, et qui nous commande. La guerre, c'est tout sauf la discipline militaire. La discipline militaire que les armées présentent comme premier outil, premier argument pour enrôler la candide jeunesse qui aime bien écouter les autorités. Mais ce sont des autorités de pouvoir usurpées. Le pouvoir sur l'ignorance. Qu'est-ce que c'est comme pouvoir? C'est la dictature. Cette mascarade de discipline qui est la soumission et l'obéissance aveugle à des ordres d'assassins rusés et menteurs. Menteurs, menteurs, menteurs. Il y a bien des philosophes qui ont dit que la guerre, c'est mentir. La propagande de guerre, c'est le mensonge systématisé. Rien n'est plus vulgaire, plus indécent, plus archaïque que la guerre. L'armée est une machine à fabriquer des dictateurs. Car l'armée, c'est la dictature pure. On devient des robots quand on devient soldat. Et surtout jeune, à 15 ans maintenant, avec le SNU. Cette formule complètement paradoxale. Service universel et national. Les deux ne vont pas ensemble. Quel bidouillage, mais bien trouvé pour berner la jeunesse. C'est la paix qui demande, en fait, d'apprendre l'autodiscipline, la jugeote, des connaissances et de la retenue. Que cesse l'abject business avec la candeur de la jeunesse. Vous savez qui est derrière tout ça? Les profiteurs de guerre. Nous devons changer d'arme. Changer d'arme. Ça ne veut pas dire passer son fusil de l'autre côté. Il faut s'armer d'un esprit de paix. Et ce n'est pas du tout un esprit de mouton. Ce n'est pas un esprit d'agneau, ni de serpillière. Un esprit de paix, c'est un esprit ouvert, rationnel, équitable, fraternel. Armez-vous de cœurs animés d'un généreux pardon et de respect envers et contre tout. Envers et contre tout. Quel futur voulons-nous? Ne restez pas à côté de vos pompes funèbres. Arrêtez le massacre. Allez dans la rue, comme font les jeunes et les moins jeunes, à Londres, dans le monde entier. Et à Paris, on commence aussi. Samedi dernier, on était réunis avec le mouvement de la paix et d'autres militants de l'Union pacifiste à Beaubourg, place Edmond Michelet, où on a tenu des discours pour argumenter contre la guerre. Mais les guerriers, ils n'écoutent pas. Ils ont des œillères et des bouchons dans les oreilles. L'humanité, aujourd'hui, a encore une fois rendez-vous avec son histoire. Allons-nous recommencer les hécatombes du passé en plus grand, en plus monstrueux, parce que notre intelligence n'a servi qu'à décupler au millième, au centième, la puissance de nos armes. C'est monstrueux. L'intelligence humaine peut mieux faire. Qu'est-ce que la guerre? Sinon une condamnation à mort des autres présumés criminels, ennemis, décrétés, obstacles à nos envies, à nos intérêts, à nos appétits voraces du bien d'autrui, nos prétentions irrespectueuses des droits des autres, qui sont pourtant nos semblables. Ils sont différents, mais ils sont un soi autre. Ne souvenez-vous pas des valeurs sacrées? Aimez vos ennemis. Quelle prétention, aimer nos ennemis. Ben, aimer, il y a aimer et aimer. Là, il y a l'amour à plusieurs dimensions. La guerre, les militaires, l'industrie du sexe veulent bien nous le faire oublier. L'être humain ne se réduit pas à un corps et à un cadavre. Il a une intelligence, un esprit qui mérite mieux que d'être traîné dans la boue. Aimez vos ennemis, mais avec intelligence, avec ruse. Il faut s'entraîner. Il faut apprendre à l'école comment désarmer un agresseur, comment désarmer un impertinent, une insulte, un insolent, une insolente. Comment les désarmer sans leur taper dessus, sans les massacrer, tout de suite avec un couteau ou à main nue? C'est très barbare. Nous allons faire une pause musicale avant que je vous parle de Robert Badinter, qui donc a supprimé la peine de mort et à qui nous sommes très redevables pour l'avenir de l'humanité. Parce que réussir à abolir la peine de mort, comme l'a fait Robert Badinter, c'est faire évoluer les mentalités vers plus d'humanité et vers le chemin de l'abolition du vieil esprit violent qui a engendré la guerre. Et c'est notre objectif des pacifistes. Les pacifistes existent, ils sont toujours là, tant qu'il y a un petit neurone éclairé dans une tête de petit terrien. À tout à l'heure.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, et nous serons morts, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous soyons, où il fallait que nous passions, la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront trouvés à nous, mais nous serons morts, mon frère. Ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront à vous, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les boulots. Et nous serons
votre système de prédateur n'offre qu'un simulacre de bonheur. Le paradis ne s'achète pas. Vos paradis sont faux, peuplés de cœurs en carton-pâte. Comme Caïn et Abel, l'humanité est divisée en rivalité entre frères. Comme Caïn et Abel, l'humanité est affreusement déchirée, criminellement assassinée par elle-même et aujourd'hui encore dirigée par des malfaiteurs sanguinaires associés pour voler, arracher, violer, tuer, massacrer et mentir. Avant et après, pour justifier ces crimes injustifiables. Oh, vous voulez rire ? Hélas ! On peut tout justifier, même l'injustifiable, hélas, car telle est la capacité monstrueuse du cerveau humain de toujours pouvoir trouver des raisons pour avoir raison. Mais la conscience humaine, elle est au-dessus des rouages de la raison. La raison, elle est au service de la conscience. Le raisonnement est au service de cette instance supérieure de la conscience qui nous dit ce qui est beau, ce qui est bien et vrai, et ce qui ne l'est pas. Sinon, on peut tout faire avec le raisonnement. La vieille loi du talion, justement, calcul déraisonnable, que vous ne respectez même pas, vous, tous les va-t-en-guerre sur les champs de bataille de tous côtés. Vous arrachez des vies innombrables pour venger d'autres crimes innombrables, mais au centuple, sans mesure aucune. Donc vous êtes revenu en arrière, pire que la loi du talion. Monsieur Poutine, Monsieur Zelensky, Monsieur Netanyahou, Monsieur Biden et Hamas associés, ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes encerclés de profiteurs de vos guerres, des fabricants d'armes à la langue de vipère, profiteurs cyniques en beaux costumes cravates qui vous font peur pour faire leur beurre et en vous en donnant quelques miettes, un beau palais au bord de la mer Noire, par exemple. Profiteurs qui vous vendent leurs armes qui ne protègent rien du tout, sauf leur compte en banque qui explose et leurs bombes qui tombent sur vos populations que vous prétendez défendre. Quelle plaisanterie hideuse! Vous ne les protégez pas du tout, au contraire. Ces profiteurs de guerre vous mentent, vous entraînent dans une descente dorée en enfer. Vous ne voyez pas clair? Vous ne voulez pas voir clair, vous avez peur. Pour dissuader des ennemis, eux aussi, fabriqués par la finance véreuse, vous spoliez vos peuples, vous menez à la mort la candide jeunesse de vos pays, fourvoyés dans l'abus des plaisirs qui les enchaînent et les aveuglent. Mais ça vous arrange bien qu'ils se droguent et qu'ils se roulent dans l'alcool. Comme ça, ils se tiennent tranquilles, mais pas sages. Du foin, perlimpinpoint. Et à quel prix? On vient de le dire, le sang de la jeunesse, encore une fois. Le prix de la misère, des marchés internationaux pipés. Les agriculteurs, ils en crèvent. Partout, en Pologne même. De la concurrence libre et faussée. Le prix du sang des pauvres que vous expédiez sur les mers, dans la faillite et sous terre, en rang, pan. Je vais vous lire quelques extraits d'un bel article d'Yves Lecard, qui publie régulièrement dans l'Union Pacifiste, notre mensuel. Et là, c'est un extrait du numéro de mois de mars, qui commence demain et qui vient donc de paraître. À propos, justement, du service national universel. Qu'est-ce que c'est que cette dernière trouvaille? Le service national universel. National ou universel? Les deux, hélas, puisque tous, de toute leur nation, dans tous les bastions, n'ont d'autre raison, sous l'égide de l'organisation terroriste de l'Atlantique Nord, qui n'a de cesse que d'attiser le feu. D'autres raisons que la guerre. Préparer la guerre, non pas pour l'empêcher, pour la rendre inévitable. Quelle fourberie, quelle fumisterie. Préparer la guerre, pas pour l'empêcher, mais pour la rendre inévitable. Eh bien, préparer le peuple à la croire inévitable. Voilà la supercherie. À s'y préparer, mais ce qui est national par définition, comme ce qui est régional, ce qui est local, n'est pas universel. L'universel est bien plus vaste que les frontières exiguës imposées, j'allais dire par les hommes, non, par les militaires, par les guerriers. Les guerriers qui n'ont toujours été les empereurs, les rois, les chefs d'État, chefs d'État, chef d'État d'obéissants, de suiveurs de rampants, d'hommes du rang prêts à donner leur vie et celle de leurs enfants pour ce désuet gadget qu'on appelle patrie. J'ajoute, évidemment, c'est devenu un gadget. Maintenant, c'est un chiffon rouge qu'on agite devant la naïveté du peuple ivrogne et angoissé par le chômage, par ne pas savoir comment payer son loyer, comment nourrir ses enfants. C'est un scandale. La patrie n'est plus une patrie. C'est une supercherie de pacotille. La seule chose qui soit à la fois nationale et universelle, c'est précisément cette bêtise humaine qui, au lieu de rapprocher les peuples, les sépare, les éparpille, les pille, les pupille, les torpille, les torture, les tue. L'universel, c'est bien, c'est très bien l'universel. Mais quand l'universel nuit, quand l'universel ennuie, quand l'universel nuit, pèse sur l'univers. Pour emprunter à Alphonse de Lamartine l'un de ses nombreux alexandrins percutants dans le bon sens du terme, c'est-à-dire capable d'amener à réfléchir, amener à penser et non à obéir, à se taire, à mettre la tête sous terre, à ramper. Alors l'univers est bien malheureux. Mais qui a donc tiré l'univers de la nuit ? S'interrogeait le grand Jules Laforgue, trop tôt parti pour en dire davantage. L'univers n'a pas besoin de service national, mais de cervelle rationnelle, éclairée et courageuse. C'est tellement gros, tellement énorme, leurs manigances, leurs manipulations, leurs abominations et leurs désolations. Merci Brassens. Et ça marche. Obéir reste le mot d'ordre. C'est tellement agréable d'obéir. On n'a pas besoin de se fatiguer le cibolo. On marche. Obéir, qui rime avec avilir. Il faut s'unir pour abolir l'injustice et la pauvreté. Il faut, mes frères, préparer le jour de clarté. Mon pauvre Graeme, depuis ta chanson, depuis plus de 50 ans, et d'autres avant toi, Pete Seeger, entre autres, combien de poètes, combien d'utopistes trop réalistes. Et pourtant, le monde sous la coupe des criminels n'a pas évolué. Si, si, il va évoluer. Nous sommes là pour les y amener, les y encourager, leur en donner envie de continuer de rêver avec nous. Toute réalité humaine, plus haute, plus belle, s'enracine dans un rêve, dans un idéal. Au contraire, la guerre, elle nous rabaisse plus bas que l'animal. Et si l'animal est pris comme s'il était un contraire, un opposé mauvais à l'être humain. Or, la guerre nous rabaisse plus bas que l'animal, façon de parler, car l'action humaine devient bestiale. Rappelez-vous, l'homme, chaque homme, chaque femme est une ébauche à dégrossir, une ébauche à corriger, rectifier, à embellir et à améliorer. L'homme n'est pas un être fini. L'homme est un être qui peut s'humaniser, qui peut s'augmenter en humanité. Jean Ferrat, dans sa belle chanson que Ariel va peut-être pouvoir nous passer, « Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. » Il dénonce aussi cette imbécilité criminelle, l'ignoble militarisation de l'enfance. Le SNU en France, dès l'âge de 15 ans, on y est. À nouveau, nous devons faire prendre conscience à nos dirigeants qu'il y a mieux à faire pour la sécurité de nous et des autres que de se taper dessus avec des bombes nucléaires qui plus est, qui redeviennent une grande menace, comme vous entendez tous les jours du matin au soir et du soir au matin dans tous les médias. Poutine agite la bombe nucléaire, évidemment. Et ça rapporte beaucoup. Les armes nucléaires n'apportent aucune paix. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles rapportent des milliards et des milliards. Penard Sélec, c'est la fin de l'article de Yves Lecard. Dans son livre, elle dénonce aussi le chaudron militaire turc d'une manière passionnante. Mais ce chaudron militaire turc n'est qu'une version, parmi d'autres, du militarisme qui va par le monde, parce qu'il rapporte beaucoup d'argent. Ce livre de Penard démontre et démonte un système qui, à quelques variantes près, est le même chez nous. Voilà. Le même partout. Marcher au pas, ne pas réfléchir, mais fléchir, obéir, ramper en rang. Mais pas la paix. D'autant plus que la guerre est assimilée aux plus hautes qualités et vertus viriles. Encore une supercherie.
Aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier, qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères.
Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce qu'on m'entendra bien
La paix sur terre, unilatéralement.
La force de la France, elle est dans ses poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Couvrez leurs yeux de cendre, tranchez leur gorge ouverte, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
La force de la France, elle sera immense,
défiant à jamais, et l'espace et le temps, le jour où j'entendrai reprendre ma romance dans la réalité de la foule chantant.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
Allô, bonsoir Catherine Brie.
Bonsoir Suzanne.
Oh, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission. Ça va éclairer beaucoup la lanterne de nos concitoyens. Je vous ai déjà présenté tout à l'heure,
oui,
un peu. Et donc, je rappelle que votre parti et votre association de protection des animaux et le parti animaliste luttent contre la maltraitance animale qui prend de nombreuses formes.
Oui.
Et donc, bienvenue.
Merci beaucoup de me laisser la parole sur un sujet qui est très important, qui intéresse et qui touche de plus en plus de gens, je crois, et sur lequel on pourrait, auquel on pourrait consacrer plusieurs émissions, tant il est vaste. Donc ce soir, j'essaierai simplement de vous donner quelques pistes et... Voilà. Donc, merci beaucoup de votre invitation.
Non, c'est nous qui sommes ravis de vous entendre. La maltraitance, c'est un terme que, personnellement, j'entendais souvent à l'égard des enfants.
Oui.
Or, vous allez nous expliquer, pour vous, la définition envers les animaux, ce qu'elle comprend, et par rapport aussi à la violence, qui, oui, a un lien, évidemment.
Bien sûr. Donc, en fait, c'est juste que les deux termes de maltraitance et de violence s'appliquent aussi bien au traitement réservé aux humains qu'aux animaux. On parle maintenant de maltraitance, alors que, bon, c'est un sujet, la maltraitance animale, qui était complètement... qui était totalement marginal à une époque et qui maintenant est un sujet qui est très très souvent débattu. Donc en fait la différence pour moi entre la violence et la maltraitance, c'est que, alors on les utilise souvent comme synonymes, mais il me semble quand même qu'il y a une différence, et vous me direz ce que vous en pensez. Il me semble que la violence, c'est une espèce de pulsion, de mouvement intérieur que tout le monde peut avoir et que tout le monde peut ressentir à un moment donné de son existence. On a tous, je crois, des pulsions et des emportements. On porte tous une violence en soi. Mais cette violence n'aboutit pas nécessairement de la maltraitance, que ce soit de la maltraitance sur un animal ou sur un enfant. Cette violence, elle peut être contrôlée, elle peut être détournée, elle peut même être... il y a des violences qui sont éduquées, hein, et donc des violences qui ne s'expriment pas, en tout cas pas sous forme de maltraitance. Donc en fait, pour moi, la violence, ce serait plutôt la cause de la maltraitance. La maltraitance, c'est le résultat, c'est l'extériorisation en fait d'une violence qui nous est propre, hein, à nous en tant qu'êtres humains, parce que nous ne sommes pas des anges. Mmh. Et donc quand cette force, cette pulsion n'est pas contrôlée, elle peut aboutir à de la maltraitance.
Et est-ce qu'on pourrait parler de maltraitance civilisationnelle dans la mesure où elle est une sorte de norme qui maintenant, sous l'effet de la prise de conscience de ce que c'est une maltraitance, est démasquée, pour ainsi dire.
Mmh. Alors, c'est une question qui est très, très intéressante, parce qu'en fait, elle pointe vraiment la problématique, parce qu'il y a une maltraitance sur les animaux qui se produit à l'intérieur des foyers, hein, de manière plus ou moins cachée. Alors on peut dire qu'il y a de plus en plus de maltraitance, dans le sens où il y a de plus en plus d'animaux domestiques dans les maisons, L'animal maintenant de compagnie, bon, c'est quelque chose qui est très très fréquent. Donc évidemment, plus il y a d'animaux dans les maisons, plus il y a de risques de maltraitance. Ce que je voulais dire tout à l'heure pour terminer sur la maltraitance animale, c'est qu'en fait, on distingue deux formes de maltraitance. Il y a la maltraitance active, qui peut être, par exemple, porter des coups, donc frapper, brûler, violenter, etc. Et puis, il y a une maltraitance passive qui consiste en fait à priver l'animal de soins, s'il est malade, ou à le priver de nourriture et d'eau, par exemple. Mais la question que vous avez posée, elle est très intéressante, parce que la violence qu'on appelle la violence qui a lieu dans les maisons, hein, c'est une violence contre laquelle il existe maintenant des lois. Hein, il y a des lois qui ont été votées pour lutter contre la maltraitance animale. Donc, évidemment, c'est pas on pourrait faire beaucoup 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 mieux. C'est pour cette raison que depuis quelques années il existe un parti animaliste qui vise vraiment à créer tout un arsenal législatif pour protéger les animaux. Mais ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'il existe une maltraitance institutionnalisée.
Voilà,
c'est-à-dire que cette maltraitance là, malheureusement, elle est légale.
Vous avez des exemples?
Alors, écoutez, les exemples, ils sont malheureusement très nombreux. On peut parler, par exemple, des élevages industriels, dans lesquels les animaux vivent dans des espaces très restreints. Les animaux sont privés d'extérieur. Par exemple, pour les élevages de cochons, on va castrer les cochons à vif. On va scier leurs dents. Pour éviter que la promiscuité entraîne des comportements violents, là aussi, des animaux les uns envers les autres. Et c'est malheureusement une violence qui est totalement, une maltraitance qui est totalement institutionnalisée.
C'est légal.
Parce que elle est légale. Mm-hmm. Elle est légale et pourtant elle touche énormément d'animaux. Parce que si on se réfère aux chiffres, par exemple, de l'année 2018, il y a 1 milliard d'animaux en 2018, qui ont été tués pour notre consommation alimentaire ou pour... il faut dire que la société, elle est entièrement basée sur l'exploitation des animaux, hein, aussi bien pour la recherche que pour l'alimentation, etc. Mm-hmm. Donc, 1 milliard d'animaux, ça donne quand même une certaine mesure de l'ampleur de ce phénomène qui est la maltraitance institutionnalisée, contre laquelle, à vrai dire... Il y a peu de choses qui sont faites parce que finalement tout le monde trouve ça aberrant, injuste, mais en même temps tout le monde l'accepte. En tout cas, beaucoup de gens l'acceptent.
En le sachant, ou en l'ignorant?
Alors, il y a une sorte de dissociation qui se passe chez beaucoup d'individus. Il existe donc l'association L214 qui fait entrer qui s'infiltre dans les abattoirs pour voir ce qui s'y passe et qui en rapporte des vidéos qui sont toutes plus horribles les unes que les autres. Donc la dernière vidéo qui a été diffusée est une vidéo qui montre que les animaux sont découpés alors qu'ils sont vivants et en pleine conscience. Donc ces vidéos, tout le monde peut les voir parce qu'elles ont une large diffusion grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui. Et beaucoup de gens sont conscients de ça. C'est très difficile maintenant de ne pas savoir ce qui se passe. Et malheureusement, d'un point de vue gouvernemental, on essaye de nous dire à chaque fois que la vidéo montre des cas exceptionnels, mais les cas exceptionnels se répètent à une fréquence un petit peu significative. Et puis d'un autre côté, il y a des gens qui vont, en voyant ces images, ces vidéos, être sincèrement émus et sincèrement touchés par ce qu'ils voient.
Bien sûr.
Mais qui, peut-être une demi-heure après ou une heure après, vont consommer la viande des animaux qui sont tués dans ces conditions-là.
Oui.
C'est ce qu'on appelle un petit peu la violence aux mains propres. C'est-à-dire que nos modes de consommation sont très souvent bénéficient à ce système. Et si nous changions nos modes de consommation, cette violence, nécessairement, elle s'arrêterait.
Ah là là, ah oui. Ça me fait penser, excusez-moi, ça me fait penser à Gandhi, qui avait beaucoup réfléchi du fait de sa propre culture hindouiste aussi, sur la violence, puisque c'était un apôtre de la non-violence.
Oui.
Du fait de son ancrage dans la culture profonde de l'hindouisme, il disait « Toute la violence que l'homme fait subir aux animaux lui reviendra. »
Exactement.
Et ça, il l'a dit dans les années 20, sans vouloir être, comment on peut dire, mauvais apôtre. Ça peut peut-être préfigurer tous les massacres qui ont suivi. Pensez aussi aux 9 millions de chevaux qui ont péri pendant la Première Guerre mondiale, évidemment, sur le champ de bataille. Mais c'est des animaux aussi qui ont été martyrisés quelque part.
Bien sûr. Alors, on parle souvent des chevaux, mais il faut savoir qu'il y avait des chiens, on a utilisé des pigeons. On a utilisé, à d'autres époques, au moment de la guerre froide, on a utilisé des dauphins. L'animal, il est devenu soldat bien malgré lui. Hein. Oui. Et quand on parle de Gandhi, effectivement, c'est très intéressant, parce que Gandhi, en fait, avait contribué à mettre en œuvre un programme agricole. Au sein duquel l'abattage des animaux devenait économiquement totalement absurde. En fait, Gandhi avait arrivé à concilier le respect de la vie animale avec la viabilité économique d'un système, et donc il luttait contre le poids de certaines traditions. Donc en fait, il était opposé aux abattoirs. Et il y a un petit texte qu'on peut trouver si les auditeurs s'intéressent à cette question. Ce sont des textes qui ont été rassemblés par une philosophe qui s'appelle Florence Burga, et ce sont donc des discours ou des interventions de Gandhi qui sont liées à cette question de la fermeture des abattoirs. Et il existe maintenant, depuis quelques années, dans des grandes villes d'Europe, des marches pour la fermeture des abattoirs.
Ah oui, c'est une bonne chose, c'est un bon signe.
Et ça me fait penser aussi à une citation de Tolstoï. Tolstoï, qui était un grand pacifiste aussi, et cette citation, c'est « Quand l'humanité abolira les abattoirs, elle abolira la guerre. »
Ah, c'est beau, c'est super. Justement, la guerre n'est-elle pas aussi une forme de maltraitance excessive, vraiment poussée à son maximum?
Alors, c'est-à-dire que la guerre... On va parler par exemple des jeunes soldats qui se sacrifient pour leur pays, comme si en fait ce sacrifice était voulu, était hors beaucoup de gens. Si on pense à ce qui se passe en Russie en ce moment avec l'Ukraine, y a beaucoup de soldats, de jeunes gens qui sont enrôlés dans ce conflit, mais qui n'ont aucune envie de sacrifier leur vie pour la défense de leur pays. Donc, quand on parle de sacrifice des animaux, par exemple, qui vont nous offrir leur chair, leur viande pour notre alimentation, ça me fait vraiment penser à ces jeunes gens qui sont donc malgré eux impliqués dans des conflits dont ils ne ressortiront peut-être pas vivants, ou en tout cas complètement détruits psychologiquement, parce qu'on est dans la même notion. Voilà, ce sont des êtres qui se sacrifient. Or, non, ils ne se sacrifient pas. On leur extorque, en fait, leur existence. On leur enlève leur vie.
Ils
ne se sacrifient pas. C'est nous qui les sacrifions. C'est la guerre qui les sacrifie.
Et avec des handicaps, des séquelles physiques et psychiques irréparables.
Bien sûr.
Et de même, le sadisme. Est-ce que vous avez une idée comment le sadisme peut s'inscrire dans l'idée de maltraitance?
Alors, il y a des études qui ont été faites et qui montrent, alors il y a vraiment énormément d'études qui ont été faites sur ce sujet et qui s'intéressent à la question de savoir si les enfants qui ont commis des actes de sadisme sur des animaux, ont plus de risques de devenir des adultes violents et des adultes maltraitants.
Ah oui.
Donc il y a beaucoup d'études qui s'intéressent à la question des rapports entre la violence domestique, donc au sein des maisons, et donc les liens entre violence domestique et violence sur des animaux. Et en fait, tous les chiffres montrent qu'effectivement, il y a une corrélation.
Oui, parce que dans le sadisme, il y a la notion de plaisir. Et donc, c'est donc une perversion. Sur le plan humain, ça a été beaucoup étudié, mais peut-être vis-à-vis des animaux, ça joue également.
En fait, c'est exactement la même pulsion.
Oui.
Quand un enfant s'en prend à un animal, bon, en général, ce sont des animaux plus petits, ce sont des chats, des animaux totalement vulnérables qui sont à sa portée. Mm-hmm. C'est un petit peu comme s'il se faisait la main sur des êtres qui sont à sa portée, qui sont à sa mesure.
Voilà.
Et
qu'il peut dominer, où il sent la jouissance de son pouvoir sur cet être complètement.
Oui. Exactement.
À sa merci. Oui. Oui. Et quels sont les déclencheurs, les causes de la maltraitance? Évidemment, je ne vais pas anticiper sur votre explication. Je pense évidemment la cause économique, mais il y en a certainement bien d'autres causes.
Alors, il y a dans la violence institutionnalisée à l'égard des animaux, il y a des formes de sadisme, par exemple dans l'utilisation d'animaux pour des spectacles.
Ah
pour
oui,
des spectacles violents.
Oui.
Par exemple, la corrida.
Ah oui.
Alors, je vais donner cet exemple puisque moi j'habite dans le sud de la France et que je suis dans un département dans lequel il y a des corridas. Il y a aussi des combats de coqs. Très curieusement, la loi est vraiment très, très... vous allez voir, c'est assez aberrant parce qu'en fait, la maltraitance sur les animaux peut être punie de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Super.
Mais il y a des dérogations. Et ces dérogations, elles concernent ce qui est dit, ce qui est appelé dans le texte de loi comme des traditions ininterrompues.
Et voilà.
Or, la corrida étant une tradition, soi-disant une tradition, que là aussi c'est un argument qu'on peut démonter facilement, la corrida étant soi-disant une tradition dans certains départements du sud de la France, là où elle est, alors qu'elle est considérée, par exemple dans le nord de la France, comme un acte de barbarie et de maltraitance, dans le sud de la France, elle est légale, elle est autorisée. Donc, c'est une loi qui est assez aberrante, mm-hmm. parce qu'il va de soi que s'il y a maltraitance sur un taureau pendant une corrida à Lille, mm-hmm. il y a la même forme de maltraitance dans le Midi, à Nîmes ou à Arles.
Ça me fait penser, vous savez, à l'excision des jeunes filles en Afrique. Où c'est une tradition,
oui.
et qui n'est pas du tout pénalisée, alors que chez nous, comme elle se pratique, surtout dans le 93, qui est reconnu pour être un département d'une forte immigration d'Afrique, où elle est évidemment sanctionnée et pénalisée par la loi.
Oui, mais alors là, on va parler de traditions de deux pays ou de deux continents différents.
Oui.
Or là, ce qui est d'autant plus aberrant, c'est qu'on est au sein d'un même pays.
Ah,
et donc,
en France,
la législation n'est pas la même non. au nord de la France qu'au sud de la France.
Ah, oui.
Alors, par exemple, les combats de coqs qui sont autorisés dans le nord de la France sont interdits dans le sud. Pour c'est ces bien. Mêmes raisons de brutalité, de maltraitance. Et donc, la notion de tradition essaye de faire oublier totalement l'aspect totalement barbare de ce spectacle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est... Alors, les gens qui soutiennent ça vont dire que ce sont des taureaux qui sont nés pour ça, que ce sont des taureaux de combat. Or, la race des taureaux de combat n'existe pas. Elle n'existe pas. On a des taureaux qui sont préparés pour arriver dans une arène on va leur mettre des choses dans les yeux, dans les oreilles, pour qu'ils aient une perception totalement floutée du monde et qu'ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Et puis il y a quelqu'un qui va agiter un petit tissu rouge là devant lui. Et le taureau, en fait, il ne cherche pas à, la première chose qu'il fait, c'est qu'il cherche à partir.
Ah oui.
Et c'est parce qu'il commence à souffrir à cause de tout ce qu'on lui plante dans le corps. Et la première arme qu'on va lui ficher dans le cou, elle a pour but de lui faire fléchir la tête. Donc, l'animal finit par devenir violent parce qu'il souffre.
Ah oui.
Voilà. Et ça, c'est un spectacle. Alors, comment est-ce qu'on peut justifier encore en 2024 qu'en France, qui se dit un pays civilisé, on accueille même dans les tribunes des enfants.
Oui, oui.
Ça me fait... Des enfants qui assistent à ce spectacle de violence extrême.
Ça me fait penser à la peine de mort qui, traditionnellement, en France, mais pas seulement en France, durant les siècles passés, était un spectacle public.
Oui.
Pour dissuader, d'un côté, mais aussi, sans doute, pour répondre aux pulsions sadiques.
Tout à fait. Alors, la seule différence, c'est que le taureau, lui, n'est coupable de rien. Il n'a commis aucun méfait et sa seule faute, ça a été de naître dans un département où la corrida est autorisée. Mmh. Et quand on pense à ces animaux qui ne demandent qu'à vivre pacifiquement en broutant de l'herbe, voir la manière dont l'homme les traite, il faut vraiment qu'il y ait une évolution. On ne peut pas continuer comme ça. Oui. Cette violence, comme le disait Gandhi. C'est la même forme de violence, et tant qu'on acceptera de traiter un animal de cette façon, que ça paraîtra normal, il paraîtra normal de traiter de la même façon un être humain.
Oui.
Et il faut, je crois, se réformer. Quand je parlais tout à l'heure de violence aux mains propres, par exemple, la violence qui consiste à accepter finalement que des animaux soient élevés et tués dans des conditions affreuses pour notre plaisir de consommateur.
Parce qu'on ne les voit pas.
Je pense qu'il faut, avant de vouloir changer, révolutionner le monde en allant dans la rue, je crois qu'il faut se révolutionner soi-même, parce que c'est une multiplication de comportements qui évolue, qui change, qui fait que le monde lui aussi change. Alors évidemment, l'alimentation, c'est une question très très complexe, parce que on a grandi dans l'idée qu'il fallait manger de la viande pour avoir de la force, etc. C'est quelque chose qui est très très
très ancré.
Enfin, qui est très très, c'est une certitude qui est vraiment très fortement ancrée dans beaucoup de gens. Bon, maintenant Gandhi, lui, ne consommait pas de viande. Pythagore ne consommait pas de viande. Donc cette interrogation sur la nécessité de manger de la chair animale, elle existe depuis la plus haute antiquité. Et aujourd'hui, il y a quand même des mouvements véganes, etc., qui montrent qu'on peut vivre en parfaite santé sans consommer de produits animaliers, et que c'est une question d'éthique, c'est une question de justice aussi. Si je peux me permettre, je suis peut-être un petit peu trop bavarde.
Non, c'est très bien, c'est passionnant.
Parce que alors, l'éthique, c'est notre rapport à l'autre, hein, à la vie de l'autre, le respect qu'on peut trouver et manifester pour la vie de l'autre. Il y a aussi une question de justice, parce qu'on se rend compte que les animaux qui sont élevés dans des élevages industriels sont nourris avec des céréales qui pourraient être réservées à l'alimentation humaine. Il ne faut pas oublier que la faim, ça existe dans le monde. Mais qu'il y a des terres qui vont être appropriées et volées aux humains, finalement, pour engraisser des animaux dont la viande va être consommée par d'autres. Donc il y a dans ce système quelque chose qui est complètement aberrant, complètement illogique.
D'autant plus que un grand nombre de céréales variées contiennent beaucoup de protéines aussi. Les légumineuses aussi.
Il y a
pas que dans la viande qu'on trouve des protéines.
Exactement. Alors en fait, l'image de la force qu'on peut avoir en mangeant de la viande, en buvant du sang, c'est une image qui, elle, est aussi complètement faussée, parce que si on regarde, on parlait des taureaux tout à l'heure, qui sont des animaux magnifiques. Hein. Ils ont, quand on voit des taureaux de corrida, ils ont une force, ils ont une robustesse. Ce sont des animaux qui symbolisent vraiment cette force. Ben, qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qui leur a donné cette force? Ce ne sont pas des carnivores, ce sont des herbivores. Donc cette force qu'ils ont engrangée, cette musculature qu'ils ont réussi à obtenir, bah, c'est pas en mangeant le lapin ou du champ d'à côté ou les oiseaux, c'est en mangeant de l'herbe. Ça devrait aussi nous faire réfléchir malgré tout.
Tout à fait, c'est un argument formidable. Alors, nous avons une chanson que vous avez proposée.
Oui.
De Francis Cabrel.
Ah, formidable.
Sur la corrida. Et je pense que on va pouvoir l'entendre.
Formidable. Merci beaucoup. C'est une très belle chanson et qui sert très souvent aux personnes qui manifestent dans les rues contre la corrida, parce que si on écoute bien les paroles, elles sont extrêmement touchantes et elles se mettent dans la peau du taureau.
Ah, oui.
Et c'est un petit peu ce qu'il nous faudrait, un peu plus d'empathie, nous mettre à la place de l'animal qu'on fait souffrir. Mais peut-être qu'on reparlera de cette question tout à l'heure après la chanson.
Ah, oui, l'empathie. Très important. Oui.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête, Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. pense que ce monde est sérieux. Est-ce que ce monde est sérieux?
Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros.
Otras vidas y otros toros. Y mataremos otros.
Venga, venga, baila. Y mataré los otros.
Merci Francis Cabrel de cette magnifique chanson pour la corrida.
Oui, elle est magnifique. Tout y est. Et ce qui est fabuleux, c'est justement de se mettre à la place du taureau, qui en fait ne comprend absolument pas ce qui fait là, ce qu'on lui veut. Qui la question, est-ce que ce monde est sérieux? C'est vraiment une question qu'on peut se poser.
La capacité de sentir ce que l'autre peut sentir. Sentir la souffrance qui peut l'habiter, c'est cela, l'empathie. Et elle nous fait défaut. Et dans la loi de la jungle, là, dans la loi du plus fort, vous l'avez compris, c'est l'absence de toute loi. Et l'absence de justice, l'absence de respect et l'absence d'intelligence véritable, à mon sens. De pacifiste. L'empathie peut s'apprendre à l'école et doit être enseignée. Ce n'est pas le cas. Le respect, c'est déjà quelque chose. Le respect qui est dû à toute personne, à tout citoyen. Mais comme vous nous venez de le démontrer, ce n'est pas suffisant.
Non, c'est pas suffisant parce qu'en fait, vraiment... Il faudrait retourner à notre humanité. Il faut en fait respecter toute forme de vie. La difficulté, finalement, tout à l'heure, vous parliez de pouvoir quand l'enfant va terroriser ou va faire du mal à un animal. Il exerce son pouvoir sur plus faible que lui, sa domination. Le souci, c'est un petit peu la manière dont l'homme se définit, la manière dont il se pense. La manière dont il conçoit sa place dans le monde, c'est un petit peu ça qui est problématique parce que finalement, déjà, si on regarde bien dans les textes religieux, hein, le discours de l'Église n'a finalement pas tellement aidé à l'empathie à l'égard des animaux parce que l'homme on dit que l'homme est à l'image de Dieu, donc il est omnipotent sur le reste de la création.
De la nature, oui.
Sur la nature, et finalement l'homme il s'est tout le temps il se définit finalement contre, c'est-à-dire qu'il est d'emblée dans l'antagonisme. L'homme il se définit contre l'animal et contre la nature, et je crois que c'est de cela que viennent toutes les difficultés aujourd'hui qu'on a, par exemple environnementales, hein, oui. Le fait qu'il y ait tant d'espèces d'animaux qui disparaissent, etc. C'est qu'en fait l'homme refuse d'être considéré lui-même comme un animal. Comme si le terme animal était un terme péjoratif.
Oui. Dévalorisant.
Alors que le mot animal, ça vient du latin anima. Anima, c'est l'âme, c'est le souffle de vie. Donc l'animal, c'est tout être vivant qui est animé de ce souffle de vie. En fait, c'est un terme qui est très beau. C'est un terme qui est magnifique. Mais l'homme ne veut pas être considéré comme un animal. Donc, il va se mettre au-dessus des autres espèces. Et finalement, le vocabulaire le montre bien, parce que à partir du moment où on veut exclure un homme de la société, où on veut jeter l'opprobre sur lui, parce qu'il a commis un acte, un meurtre, etc. Eh ben, on va le reléguer dans le champ de l'animalité.
La bestialité. Et
on a beaucoup. Oui, on a beaucoup d'images. Par exemple, quelqu'un de sale, on va le traiter de porc. Quelqu'un de bête, on va le traiter d'âne. Quelqu'un d'impunier, on va le traiter de blaireau. On va parler de la bestialité d'un homme, oui, etc. Quand il a commis un acte cruel ou et tout cela pourquoi? Pour ne pas reconnaître en fait qu'en nous, de toute façon, l'homme n'est pas un ange. L'homme, il veut se considérer comme un ange, comme s'il y avait l'ange et la bête. Mais l'homme, voilà, l'homme, il peut participer un petit peu des deux. Il participe aussi de l'animalité, c'est un animal.
En partie.
Oui, pardon.
En partie.
Alors, en partie, mais si on reste sur la définition de l'animal comme un être qui est animé d'un souffle de vie et qui tient à sa vie, qui veut préserver sa vie et dont le but c'est de vivre sans souffrir, l'homme est un animal comme les autres. Alors, il a une autre forme d'intelligence, etc. Mais il faut arrêter de se penser les maîtres du monde, parce que c'est ce qui, justement, nous éloigne de notre humanité. Même si on considère que l'homme est supérieur à toutes les autres espèces, cette supériorité, justement, ne lui donne pas des droits, elle lui donne des devoirs.
C'est juste.
Parce que quand on est face à un être plus faible que soi, à un être qui est vulnérable, ce qui nous montre, ce qui révèle notre humanité, ce n'est pas de le terroriser, ce n'est pas d'exercer de la cruauté sur lui, c'est au contraire d'être dans la protection, d'être dans le respect.
Mais en ce sens-là, l'homme a une attitude, je veux employer un terme très classique, noble, parce qu'entre animaux, il y a bien la prédation. Les animaux se dévorent entre eux pour se nourrir.
Oui, mais à partir du moment où l'homme n'a pas besoin de chair animale pour se nourrir, ce n'est plus de la prédation. On va pas pouvoir parler de... Si le lion tue la gazelle, il n'a pas le choix. C'est sa nature. La prédation, elle existe dans la nature.
Voilà.
Mais justement, l'homme, il a le choix.
L'homme a
le choix de s'élever au-dessus de ça. Voilà. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'il voudrait. Mais en réalité, il ne s'élève pas du tout au-dessus de ça, parce qu'en ayant le choix, l'homme étant omnivore, ça ne veut pas dire qu'il doit manger de tout, ça veut dire qu'il peut manger de tout. Ça veut dire que son corps peut tolérer toutes sortes de nourritures, dont les légumes, dont les fruits, dont la viande, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il est obligé de manger de tout.
Non, et là nous voyons aussi l'aspect de sa liberté, qui l'autorise à faire des choix.
Qui l'autorise à faire des choix. Il faudrait faire les choix dans le sens du bien-être de l'autre. Parce que, alors, évidemment que c'est très difficile, on est dans une société, on mange beaucoup de viande, on mange de la viande. C'est un signe aussi de richesse. Toutes les sociétés développées qui s'enrichissent veulent avoir droit à manger de la viande. Bon. Mais je sais bien que du jour au lendemain, les gens ne vont pas devenir végétariens ou véganes. Mais déjà, prendre conscience que nos choix personnels d'alimentation ont une portée énorme sur la vie, sur le bien-être, sur les souffrances de tous ces animaux qui ne connaissent que souffrance sur Terre, ça serait déjà un grand pas. On ne demande pas aux humains de devenir des anges, on leur demande de prendre conscience et de faire des efforts pour s'humaniser un petit peu,
voilà,
pour être dans l'empathie à l'égard de tous les autres. Parce que là, il est question de l'altérité, la manière dont l'homme conçoit l'altérité. Que l'altérité, c'est pas seulement l'homme d'une autre civilisation, d'une autre religion, d'une autre couleur, c'est aussi l'animal.
Mais
donc comment est-ce que je conçois l'animal, comment je respecte l'autre, comment je me positionne par rapport à l'autre.
Oui, c'est ça. C'est Une grande question.
Et il y a aussi, pardon.
Non, je vous en prie.
Et il y a aussi le problème de la nature, parce que si l'homme se définit contre l'animal, il s'est défini aussi contre la nature, parce que l'homme s'est toujours défini comme un être de culture. Et quand il parle de la nature, il va parler d'environnement. Or, l'environnement, littéralement, c'est ce qui nous entoure. Donc, on est dans un point de vue totalement anthropocentrique. Je suis au-dessus, je suis au centre, et je regarde d'en haut tout ce qui m'entoure.
Et même les autres humains, même en tant qu'êtres humains, nous nous mettons les uns au-dessus des autres.
Oui, on peut, oui, bien sûr. Alors, ça entraîne quoi ? Ben, ça entraîne des antagonismes, ça entraîne le manque d'empathie, et puis, alors que, si on regarde bien, nous sommes partie de l'environnement. L'environnement, ça n'existe pas. Nous sommes dedans. Ce n'est pas quelque chose qui est autour de nous ou dans lequel nous sommes. Nous sommes une partie de l'environnement. Enfin, nous sommes...
Environnement.
Voilà, nous sommes tous reliés. Et donc, faire mal à l'environnement, faire contribuer à la pollution, etc., c'est se faire mal à soi-même. C'est ce que disait Gandhi, ça se retourne tout le temps contre l'homme.
Tout à fait. Tout à fait. Notre émission va toucher à sa fin dans 5 minutes.
Oui.
Et donc, s'il y a encore un message très important à adresser à nos concitoyens, quel serait-il, Catherine Brie ?
Le message, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est aujourd'hui, on sait ce qui se passe. On sait que l'animal est un être doué de sensibilité, c'est même le code civil qui le dit. On sait que l'animal souffre, on sait qu'il éprouve du plaisir, on sait que l'animal a le même but que l'humain, c'est-à-dire de vivre. Il a cet instinct de survie, il est là, il ne sait pas pourquoi, il est comme nous, mais il a envie d'être, s'il est là, il a envie d'être bien. Il a envie d'être respecté, il a envie de vivre dans le respect de ses besoins naturels.
Oui.
Donc si on part de ce constat-là, il faut qu'on revoie notre façon de penser l'animal, de considérer l'animal. Il faut penser l'animal comme un autre nous-mêmes, mais comme un nous autre.
Oui.
Cette expression, je l'aime bien, c'est-à-dire que nous sommes tous sur la même planète, nous avons tous le droit de vivre. Donc il faut repenser nos modes de consommation, il faut repenser nos habitudes personnelles. Il faut nous regarder dans un miroir tel que nous sommes et nous dire que nous avons, que nos choix, par exemple alimentaires, vestimentaires, etc., ce sont des choix politiques. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une portée énorme sur la société, sur le monde que nous allons offrir à nos enfants.
Tout à fait. Et nous, en tant que pacifistes, on peut ajouter que ce combat que vous menez pour ne pas consommer de la viande, pour ne pas mettre à mort des millions d'animaux, nous disons, nous devons renoncer aussi de mettre à mort nos semblables humains.
Bien
sûr.
Et
c'est pourquoi nous défendons l'objection de conscience, qui est un droit qui n'existe pas depuis très longtemps en France, hein, depuis 1963. Et en renonçant aussi à la peine de mort, nous pouvons par là envisager un horizon mieux et plus lumineux où nous n'aurons plus d'armées. Nous allons désarmer les armées. Nous allons en effet créer un nouvel état d'esprit plus averti sur notre propre violence, un état d'esprit plus averti grâce à un système éducatif qui enseignera le fonctionnement humain, collectif et individuel, intersubjectif et au niveau politique, afin de nous abstenir de devenir des assassins les uns des autres, comme des abattoirs. Merci beaucoup, Catherine.
Merci Suzanne, j'espère que je n'ai pas été trop bavarde parce
pas
que c'est un
tout.
Sujet qui me tient énormément à cœur et pas sur lequel tout. J'aurais énormément de choses à dire.
Une autre fois, si vous pouvez, vous serez la bienvenue pour une autre émission.
Et encore une fois, je ne veux pas culpabiliser les auditeurs, je veux simplement une prise de conscience, j'aimerais que les gens prennent conscience, encore une fois, que leur choix, que leur mode de vie a des répercussions énormes sur des milliards d'animaux qui ne naissent que pour souffrir sur Terre.
Et on n'en a pas besoin pour être en
Exactement.
Bonne santé.
Soyons, retrouvons notre humanité et voilà, ce qui fait la beauté de la vie humaine, de la vie tout court.
Et notre
Soyons
bonheur.
Les uns avec les autres et pas les uns contre les autres.
Voilà, exact. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Suzanne, pour cette invitation.
De rien, merci à vous. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. Alors, chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. J'espère que vous vous êtes pas ennuyés et que vous avez pris de la graine dans ce que nous avons pu vous communiquer. Ne vous laissez pas faire. Ne baissez pas les bras. Développons notre humanité au-delà de nos hostilités et de nos animosités que nous pouvons transformer. Et venez à toutes les manifestations. À bientôt.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement.
Thank you.